Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'on se retrouve pour ce podcast. Je vais vous accompagner durant ces quelques minutes où l'on va non seulement parler, mais aussi écouter de l'histoire et de la musique. De la musique, bon, vous allez me dire que c'est très vague. Quelle musique? Eh bien, mesdames et messieurs, la compagnie Aéroflotte vous invite à rabattre votre tablette, lever votre siège et à boucler votre ceinture. Nous allons atterrir pour ce premier numéro de Qu'écoutait-on en Union soviétique. Enfin, on revient en 2025. Cette année, c'était le 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, qui devient alors secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Rien que ça. Son arrivée au pouvoir marque alors un tournant décisif pour l'URSS. Un modéré arrive au pouvoir et commence alors un grand chantier de réforme pour le pays qui est dans une situation de crise économique, politique et sociale. La nouvelle équipe gouvernementale soviétique lance alors deux grosses réformes que l'on connaît presque tous, la perestroïka et la glasnost. La première est une réforme qui va tenter de sortir l'Union soviétique de la crise économique. C'est le développement d'une ouverture limitée au marché mondial qui est une révolution pour un pays communiste. Mais attention, pas toutes les entreprises. D'ailleurs, ces entreprises peuvent enfin décider de leur production et sont moins dépendantes de l'État. Le système industriel est remis au goût du jour par des investissements massifs dans la technologie. La seconde réforme, la glasnost, va complètement chambouler la vie culturelle et sociale. Pour restaurer la confiance entre le pouvoir et la population, Gorbatchev va alors décider de réduire drastiquement la censure, ouvrir le débat public et développer progressivement l'accès à la culture étrangère. Cette réforme va alors littéralement bouleverser le monde de la culture et notamment le monde de la musique. Vous me voyez alors venir, on va s'intéresser à un groupe très connu, un groupe de rock. Mais pas n'importe quel rock, un rock soviétique. Un rock né dans les années 1960-1970, qui a alors pu se développer après ces réformes. Les autorités soviétiques précédentes considéraient cette musique comme une influence occidentale dangereuse, qu'il fallait alors drastiquement contrôler. Les groupes sont alors officieux, underground. On la joue dans des clubs fermés, chez des amis, dans des appartements. Se forment alors des festivals presque clandestins, avec du matériel d'entrée de gamme, pour ne pas dire autre chose. Melodia gère la discographie russe. C'est la société soviétique d'enregistrement et label du pays. Elle est propriété de l'État. On retrouve aussi des auteurs-compositeurs de musique à texte qui accompagnent leurs chansons avec une guitare, comme Bulat Okudchava ou Yana Bichevskaya. Les passionnés de rock, quant à eux, échangent des cassettes, copiées et recopiées, et s'organisent des sessions d'écoute en dehors des circuits officiels de diffusion. C'est ce que l'on va appeler le magnétisdat. C'est dans ce contexte peu propice à la création musicale qu'un des groupes de rock soviétiques les plus populaires va se former en 1981, dans une ville alors encore nommée Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Ce groupe, c'est Garin et les Hyperboloïdes, en référence au nom du célèbre Tolstoï. Ce groupe, qui ne vous dit alors absolument rien, va se renommer officiellement en 1982 et va prendre le nom de Kino. Un nom plus simple, marquant et symbolique. Kino, c'est le cinéma, c'est l'image, c'est l'universalité, car tout le monde peut le prononcer partout dans le monde. On nous raconte que le chanteur du groupe aurait eu cette idée, un soir, en voyant l'enseigne lumineuse du cinéma Cosmonaute de Leningrad clignoter. Dessus, il est écrit « Kino ». Kino est alors un groupe de trois jeunes. Le chanteur, guitariste et compositeur Viktor Tsoï, le guitariste Alexei Rybin et enfin le batteur Oleg Valinsky. Cette même année 1982 marque un changement de production pour le groupe. Après avoir répété pendant plus d'un an à huis clos dans des appartements, Kino se produit au Leningrad Rock Club, une salle de concert supervisée par les jeunesses communistes et le KGB, où il est donc possible de se produire légalement, du moment que les textes conviennent aux autorités. Le groupe va devenir un duo, le batteur étant mobilisé. C'est au club de rock qu'ils vont rencontrer leur mentor, Boris Grebenchnikov, alors chanteur et fondateur d'un célèbre groupe soviétique, Aquarium. Boris va alors les aider à enregistrer leur premier album, nommé 45. Cet album produit dans le studio presque laboratoire du premier producteur de rock soviétique Andrei Tropio marque ainsi le premier acte artistique sérieux du groupe. Magnétophone à bande, peu d'égalisation dans l'enregistrement, 45 possède une fraîcheur et une sincérité qui frappent immédiatement l'underground de Leningrad. Les chansons oscillent d'abord entre folk acoustique et new wave naissante. Des titres, comme Elektrichka, qui raconte l'aliénation du quotidien soviétique, ou Soldata, révèle déjà la capacité de Tsoï à transformer des images simples en symboles. Ce disque n'est pas diffusé officiellement, mais circule massivement grâce au magnétisdat, donnant à Kino une visibilité rapide dans les cercles alternatifs. En 1983, après la sortie de 45, la rupture entre Viktor Tsoï et Alexei Ribin devient inévitable. Ribin, davantage attiré par des structures complexes et des expérimentations techniques, ne partage plus la vision minimaliste de Tsoï. Cette séparation est un tournant décisif. Elle permet l'entrée de Yuri Kasparian, jeune guitariste talentueux dont les influences de The Cure ou encore Joy Division enrichissent immédiatement la palette sonore du groupe. Kasparian apporte des lignes de guitare claires, mélodiques, souvent atmosphériques, tirées de la musique britannique. Ils deviendront alors la signature de Kino. Le duo Tsoï-Kasparian se forme, et son alchimie artistique va modeler les années à venir. La période 1983-1984 est celle de l'apprentissage et de la consolidation. L'album Natchalnik Kamchatki, enregistré dans les studios du Leningrad Rock Club, explore des ambiances plus sombres et plus urbaines. Tsoï y travaille comme chauffagiste dans une chaufferie à charbon de Leningrad, en russe Kamchatka. Et cet environnement inspire une grande partie de son écriture. La chanson Kamchatka elle-même, bien que discrète, devient un symbole de l'underground soviétique. Ce lieu regroupe aussi d'autres chanteurs y ayant travaillé et deviendra plus tard un site de pèlerinage pour les fans. Malgré des moyens limités, le groupe se professionnalise, les concerts deviennent plus nombreux, la base de fans s'élargit et Kino développe une identité plus cohérente. Un véritable cap est franchi avec Notch, 1986, album qui marque l'entrée de Kino dans la cour des grands. La formation stable se compose désormais de Viktor Tsoï, chanteur-guitariste, Yuri Kasparian, guitariste principal, Georgi Gourianov à la batterie et Igor Tikhomirov à la basse. Cette configuration permet une évolution esthétique majeure. Les rythmes deviennent plus nets, les arrangements plus travaillés, et la voix de Tsoï, désormais plus grave et plus assurée, gagne en force expressive. Notch contient des chansons qui deviendront des classiques, comme So The Night, morceau entraînant qui deviendra un tube dans toute l'URSS, et Mama, Anarchia, chanson contagieuse qui résume l'esprit joueur et rebelle du groupe. L'explosion nationale survient avec l'album Grupa Krovi en 1988. Dans le contexte de la perestroïka, marquée par l'ouverture, les doutes et les aspirations nouvelles, Kino devient la bande-son d'une génération. L'album est plus mature, profond et explore des thèmes comme l'engagement personnel, la pression sociale et le désir d'une transformation intérieure. Le morceau-titre « Grupa Krovi » devient un hymne. Chanson simple, presque statique, mais portée par une forte intensité émotionnelle. Beaucoup y voient la voix d'une jeunesse écrasée par un système rigide, mais déterminée à garder une dignité intérieure. A Star Called the Sun connaît également un immense succès avec sa mélodie hypnotique et son texte philosophique sur le sens de la vie et la quête de lumière. Kukushka, sur un tempo plus lent, fut écrite à la même période et enregistrée peu après. Elle deviendra l'une des chansons les plus reprises de toute l'histoire de la musique russophone. À la fin des années 1980, Kino atteint une notoriété comparable à celle des plus grands groupes occidentaux. Mais avec une particularité propre à l'Union soviétique, l'absence d'une véritable industrie musicale de rock. Les concerts attirent des foules immenses, parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Un phénomène inédit à l'époque pour un groupe issu de l'underground. Victor Tsoï apparaît alors dans plusieurs films, ce qui contribue à renforcer son aura de héros moderne. Discret, mais charismatique. Le groupe se produit aussi à l'étranger, en France, en Allemagne, où le public découvre un groupe soviétique de rock étonnamment moderne, très éloigné des clichés culturels de l'époque. Mais l'histoire de Kino se brise brutalement le 15 août 1990. Au 35e kilomètre de la route P-128, reliant Sloka à Talsi, en RSS de Lettonie, Victor Tsoï s'endort au volant de sa Moskvitch et percute un bus de plein fouet, alors qu'il travaillait sur les maquettes du prochain album. Il a 28 ans et sa disparition provoque un choc national. Des milliers de jeunes se rassemblent spontanément dans les rues, les murs de Saint-Pétersbourg et de Moscou se recouvrent d'inscriptions. Tsoï est vivant. L'album noir, Tcherny Album, terminé à partir de ses dernières démos par Kasparian, Gurianov et Tichomirov, sort à titre posthume et devient immédiatement un monument. Kino décide de se dissoudre. Sans Tsoï, le groupe n'existe plus. Cependant, l'héritage de Kino reste immense. Leurs chansons sont enseignées dans les écoles, reprises dans des manifestations, jouées dans les rues et même intégrées dans des films contemporains. Victor Tsoï est devenu un mythe culturel, une des figures les plus aimées du monde post-soviétique. Son œuvre sincère et dépouillée continue d'influencer des générations de musiciens et de rappeler la puissance d'une musique née dans l'ombre, mais capable d'illuminer tout un pays. le rock soviétique connaît encore un écho très puissant, avec des groupes modernes aux millions de streams, avec le groupe Mauvais Goût et leur musique disque, connue dans le monde entier par ses multiples reprises sur TikTok. Pour terminer ce podcast sur une bonne nouvelle, sachez que le groupe Kino s'est reformé depuis 2019 avec le fils de Tsoï, Alexander, Yuri Kasparian et Igor Tikhomirov. Il est temps pour moi de vous laisser sur une petite note musicale avec le dernier héros par Kino.
Но не смог быть один. Твоя душа легка, но не ведает.